si chacun dans l'organisation est en charge de ses domaines de responsabilité et finalement un intrapreneur sur ses rôles, eh bien on conçoit bien que l'entreprise se transforme en banc de poissons et non pas en monolithe extrêmement lent à manœuvrer, parce que celui qui est tout en haut, ne comprenant pas ce qui se passe tout en bas, va donner des mauvaises recommandations 90 fois sur 100.
Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes, celui de soutenir les entrepreneurs qui donnent du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes, une série d'escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur vision.
Bonjour, eh bien, je suis Luc Breton, le fondateur de NextGen, une communauté internationale qui se focalise sur l'innovation managériale et les organisations à impact. Et dans cette escale, on va essayer d'approfondir quelques éléments du management de nouvelles générations et de ces organisations qui sont focalisées sur la réalisation de leur raison d'être. J'ai fondé NextGen il y a à peu près 4 ans, à l'issue d'un voyage autour du monde dans 30 pays pour observer des pairs, PAIRS, qui, comme moi, ont tenté de développer de l'innovation managériale dans des organisations de toute taille, dans toute culture, donc ce qui est excessivement intéressant. Et les chapitres du livre qui en a résulté constituent les éléments signifiants et communs que j'ai pu récolter lors de ce voyage. Et précédemment, j'étais directeur de l'innovation d'un grand groupe international que tout le monde connaît, Orange. Et donc, j'ai eu la chance de manager des équipes très variées et aussi de m'intéresser à l'innovation technologique qui sous-tend beaucoup des transformations qui sont à l'œuvre dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Chapitre 1. Je vous propose de traiter de ce qu'est le management nouvelle génération. Alors, j'ai été amené à travailler sur ce sujet de par mes activités professionnelles et mon expérience de terrain, puisque j'ai passé l'essentiel de mon temps à manager des équipes opérationnelles sur différents métiers, services après-vente, vente, technique, technicien d'intervention, marketing, informatique et technologie et autres. Et puis également en observant des études mondiales, notamment celle de Gallup, mais pas seulement, qui démontre que le niveau de désengagement dans la société et dans les entreprises en particulier a atteint son paroxysme à plus de 85% en Europe et encore pire en France, sachant que l'Europe est le pire continent dans le monde. Donc on a vraiment un sujet. Et puis en France, on est particulièrement défaitiste et on regarde le passé avec nostalgie et donc ça n'aide pas. Et ce désengagement est d'autant plus prégnant dans les entreprises françaises. Tout ça, c'est un héritage de la précédente révolution industrielle, non pas celle de l'Internet, mais celle d'avant, qui évoluait dans un milieu économique très prévisible, dans lequel on pouvait prévoir les choses à l'avance, les organisations étaient relativement immuables, avec cette hiérarchie pyramidale traditionnelle, très bien huilée comme une machine, avec des processus qui vont décrire dans le moindre détail tout ce que chacun a à faire dans une organisation et qui, au final, refuse aux gens d'utiliser leur cerveau, ce qui est particulièrement frustrant et qui enlève le sens au quotidien dans ces organisations. Eh bien, le management nouvelle génération, précisément, permet de remettre le sens au cœur, l'humain au cœur de l'organisation, en alignant la raison d'être d'une organisation. À quoi sert-elle? Pourquoi on se lève le matin? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je suis capable de rentrer chez moi le soir et de dire à ma compagne ou à mon compagnon, ma journée a servi à quelque chose et je suis capable de te décrire en quoi j'ai eu de l'impact sur mon organisation et donc sur la raison d'être de son organisation? Et est-ce que cette raison d'être, elle est positive ou négative? Est-ce qu'elle s'améliore? Est-ce qu'elle se détériore en termes sociaux ou environnementaux? Donc ça, c'est très important. C'est qu'est-ce que je fais au travail? À quoi sert mon activité? Et puis, eh bien, il y a des manières de s'organiser pour être efficace et positif dans son impact et dans son travail quotidien. Ça, ce sont des nouvelles gouvernances qui misent beaucoup plus que par le passé sur l'autonomie, la responsabilité, la transparence, un management par la confiance plutôt que le fameux commande et contrôle du siècle passé. Chapitre 2, vers le management collaboratif. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sociocratie et tous les frameworks ou cadres d'organisation du travail qui distribuent l'autorité fonctionnent de manière éminemment collaborative et non pas coopérative, où chacun va avoir besoin des autres pour réussir. 1 plus 1 égale 3, eh bien, contrairement à des idées reçues, c'est né en Europe, hein, et pas aux États-Unis ou ailleurs. C'est né en Europe, et en particulier pour la sociocratie aux Pays-Bas, peu avant la Seconde Guerre mondiale. La sociocratie a été, comme tous les frameworks, c'est-à-dire les cadres de travail et de management, de gouvernance partagée, c'est-à-dire qui distribue l'autorité, tout ça, c'est né en Europe, sur des valeurs européenne et non pas aux États-Unis comme certains peuvent le penser ou ailleurs dans le monde. Et la sociocratie, elle est née d'abord aux Pays-Bas avant la Seconde Guerre mondiale parce que certaines entreprises qui étaient en difficulté avaient besoin de trouver des idées et d'engager leur personnel dans cette réflexion difficile qui consiste à arbitrer entre licencier et survivre. Ces solutions sont arrivées de fonctionnement collectif. D'abord sur des principes de consensus où on essayait de trouver une ligne qui corresponde à la volonté de tout le monde et à l'accord de tout le monde. Et puis ensuite est arrivée une version collective beaucoup plus efficace que le consensus qui est le consentement. Alors le consentement, tout le monde donne son avis, mais si on n'arrive pas à trouver d'objection sérieuse à une proposition faite par quelqu'un dans le groupe, cette réalisation, cette proposition se met en œuvre. Donc ça, c'est extrêmement puissant et ça permet à toutes les forces vives d'un collectif en charge chacun de rôles différents, hein, bien sûr. Hein, tout le monde ne s'occupe pas de la finance, tout le monde ne s'occupe pas de la technique, etc. Chacun sur ses rôles et ses responsabilités. C'est très important d'être précis là-dessus. Mais chacun est à la manœuvre pour proposer des solutions d'amélioration. On parle de traitement des tensions. Tensions au sens non pas péjoratif, mais de différence de potentiel physique entre une situation telle qu'on la connaît et une situation idéale telle qu'on aimerait qu'elle soit. Et donc, ce principe de traitement des tensions, il est fondamental en management parce qu'il permet qu'on ne dépende pas de la chaîne de commandement hiérarchique pour prendre des décisions, mais chacun va les prendre à son niveau, sur ses rôles et ses responsabilités, ou de manière collective, lorsque c'est nécessaire. Ce changement de paradigme est très important. Moi, j'ai longtemps été manager. Alors, j'ai appris à manager, entre guillemets, à l'ancienne en sortant de l'école parce que je ne connaissais rien d'autre et que personne ne m'avait parlé d'autre chose. En gros, quand on venait me voir, les gens de mon équipe venaient me voir ou de mes équipes. « Chef, j'ai un problème. Est-ce que tu peux m'aider à le résoudre ?» Bon, aujourd'hui, ça ne me viendrait plus à l'idée d'essayer de résoudre les problèmes à la place des gens, mais plutôt de leur dire « Quelles sont les solutions que tu amènes avec ton problème ?» Et si tu n'y as pas réfléchi, ben, je t'invite à le faire parce que tu connais mieux que moi les sujets sur lesquels tu as autorité et qui correspondent à tes responsabilités. Et donc, si chacun dans l'organisation est en charge de ses domaines de responsabilité et finalement un intrapreneur sur ses rôles, j'aime beaucoup l'expression d'être patron de ses rôles, d'être patron de ses responsabilités dans l'entreprise, de ses périmètres de responsabilité, eh bien, on conçoit bien que l'entreprise se transforme en banc de poissons et non pas en monolithe extrêmement lent à manœuvrer parce que le temps que la demande émane du niveau opérationnel, remonte la chaîne de commandement, j'utilise volontairement un terme militaire, arrive tout en haut et redescende, et bien on voit bien que ce temps perdu, il est dramatique, et d'autant plus que celui qui est tout en haut, ne comprenant pas ce qui se passe tout en bas, va donner des mauvaises recommandations. Plus de 2 fois sur 3 ou 90 fois sur 100, ça paraît assez évident. Alors, mes conseils pour une transformation efficace, c'est déjà de sauter de l'esprit que toute l'entreprise est homogène dans sa maturité managériale et dans ses modes de fonctionnement. Et d'ailleurs, beaucoup de dirigeants pensent que toutes les équipes ont les mêmes besoins en la matière, ce qui est une folie. Donc la première des choses à faire, c'est partir d'un bon diagnostic, c'est-à-dire d'où partent mes équipes et équipe par équipe, quelles sont les aspirations de chacune des équipes en matière de fonctionnement. Là, on va connaître quelle est la marge de manœuvre à l'instant où on veut lancer une transformation. Ensuite, on peut travailler sur la culture de l'entreprise, sur ses valeurs, sur ses croyances, sur ses comportements explicites. On peut essayer de bousculer ça en donnant des exemples à l'extérieur, en montrant, en donnant à voir d'autres entreprises. Donc ça permet de faire pivoter l'état d'esprit, le mindset dans une organisation et de faire bouger les aspirations. Mais toujours est-il qu'il faut partir d'un bon diagnostic. Donc ça se fait. Il y a des outils scientifiques pour faire ça. Nous en utilisons chez NextGen un en particulier qui est remarquable, qui, je pense, n'a pas d'équivalent au monde. Et sur cette base, de ce diagnostic qui se fait à la maille des équipes. Donc, le diagnostic, c'est vraiment la première étape. Comprendre quelle est l'aspiration des gens à aller vers des transformations, par exemple pour passer d'un mode de management directif vers un management plus participatif ou d'un management participatif vers un management plus collaboratif. Et une fois qu'on résout ces tensions, ces différences de potentiel entre ce qui est observé en matière de fonctionnement d'une équipe et l'aspiration de cette équipe, on va mécaniquement, c'est un résultat de recherche qui a été validé sur plus de 2000 équipes à l'heure où je parle dans ce podcast, mécaniquement augmenter la performance, l'efficacité de ces équipes. Donc là, je dirais, automatiquement, en résolvant ces tensions, en réalignant les équipes sur leur processus de travail quotidien et en travaillant, en faisant un focus sur les points de performance où on a des gros trous dans la raquette, mais on peut avoir un manager super brillant, très rodé, très ancien, quelqu'un qui est cinquième dan de management, il va toujours avoir des angles morts hein, ou des trous dans la raquette. Il y a des choses qu'il ne percevra pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire ce diagnostic. Et ensuite, plutôt que d'y aller en B52 à former tout le monde à l'agilité ou tout le monde à l'autonomie ou tout le monde à la rétrospective ou tout le monde aux réunions efficaces ou je ne sais quoi, qui sont quand même des choses qu'on voit partout dans les entreprises qui ont des catastrophes parce que, en fait, les gens n'ont pas les mêmes besoins selon les équipes dans l'entreprise. Eh bien, si on arrive à faire ce diagnostic très précis, eh bien, on arrive à réaligner une équipe donnée sur ses processus de travail, à combler les sujets de performance qui sont ces angles morts que le manager n'a pas vus ou n'arrive pas à traiter lui-même parce que le manager n'est pas un psychologue, n'est pas un sociologue du travail ou ne voit pas certaines choses. Eh bien, là, on arrive à faire deux choses d'un coup. One stone, two bird, à tuer deux oiseaux avec le même caillou selon l'expression anglo-saxonne, c'est remettre du bien-être dans les équipes et remettre de la performance. Et le bien-être va alimenter la performance et la performance va alimenter le bien-être au travail. Chapitre 3, le rôle du manager dans ce nouveau contexte. Alors, le rôle du manager aujourd'hui, c'est franchement pas simple. On pourrait même se dire, c'est infernal d'être manager aujourd'hui. C'est un peu comme un soldat qui s'est perdu dans les lignes ennemies. Ça devient extrêmement complexe. Tout le monde lui tombe dessus, en fait. La hiérarchie attend de lui qu'il passe les messages, qu'il aligne la stratégie. Les individus et personnalités diverses et variées qui sont dans son équipe, enfin, je lui souhaite qu'elles soient variées, parce que la diversité crée de la performance, lui demande un cahier des charges insolvable. Il y a plus d'inconnus dans l'équation qu'on ne saurait en résoudre. Les uns veulent de la semaine de 4 jours, les autres veulent des RTT, les autres veulent des activités sportives, s'occuper d'un parent malade, et certains s'occupent de leurs enfants. C'est assez infernal. Certains veulent télétravailler, d'autres pas, d'autres 2 jours par semaine, d'autres la totalité de la semaine. C'est ingérable. Aujourd'hui, honnêtement, il y a une démission, une grande démission. Beaucoup rendent leur tablier et moi, je les comprends. Ce qui est formidable dans le management, et on a parlé de gouvernance partagée où on dit qu'on va plutôt limiter le nombre de strates hiérarchiques pour redonner du sens, redonner du contact avec la raison d'être globale de l'entreprise. Donc il n'y a pas absence de hiérarchie, mais moins de hiérarchie, et une hiérarchie de nature différente, une hiérarchie d'équipe plutôt qu'une hiérarchie individuelle et de subordination de personnes. Donc le management évolue. On aura besoin demain plus encore qu'aujourd'hui de managers courageux, de managers intelligents et de managers qui vont changer de posture. Ils vont changer de posture soit parce qu'ils vont passer d'un management de subordination à un management de support, c'est-à-dire s'assurer que l'équipe s'exprime et que l'interdépendance des tâches, avoir besoin les uns des autres pour fonctionner, développer le droit à l'erreur, l'humilité, la bienveillance, l'entraide, tout ce qui permet à la sécurité psychologique de s'épanouir et de permettre à une équipe d'apprendre de ses erreurs et d'être dans un processus d'amélioration continue et donc de surperformer, ça nécessite un positionnement managérial très différent de ce qu'on a connu au XXe siècle en général et dans la dernière révolution industrielle. Donc c'est un manager qui est moins en coupure, mais plus en facilitation, en support. Certains parlent de coach, d'autres de servant leader. Tout ceci va dans le même sens. On est moins dans l'expression d'un pouvoir sur, mais plutôt un pouvoir avec son équipe. Si son équipe est fort, le leader va être fort. Et d'ailleurs, on parle de plus en plus de leadership et de moins en moins de management, qui est un terme équestre issu de racines latines, italo-françaises, qui veut dire tenir par la main un cheval dans un corral. Donc on peut espérer mieux au XXIe siècle en matière de relations humaines que de dresser un cheval dans un corral. Cette nouvelle posture managériale, elle est difficile parce qu'elle nécessite un changement de posture, on l'a dit, une attitude de coach et de support. Et puis de concilier avec fermeté les desiderata à la fois de la hiérarchie et de l'équipe, et puis la nécessité pour un manager d'être un véritable chef d'orchestre, c'est-à-dire de sanctuariser des moments, je pense au retour du Covid en particulier, de contact physique, qui sont les seuls qui peuvent permettre l'épanouissement de la sérendipité, c'est-à-dire être innovant, faire preuve de créativité, utiliser notre body language, utiliser nos attitudes, notre intuition tripale et par le cœur et pas seulement par la tête ou par le cerveau gauche, mais aussi par le cerveau droit créatif. Et tout ça, ça fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux quand on se voit, quand on se touche, quand on se regarde, quand on se sent. Quand on est sur un espace physique unique, et ça, même si certains rêvent de travailler 100% à distance, ça nécessite de se voir, ça nécessite pour le manager d'organiser ses événements qualitatifs de présence, et non pas chacun dans son bureau à s'envoyer des chats alors qu'on est à 5 mètres l'un de l'autre, ce qui est ridicule. Et donc, cette partition du manager, à la fois sur les moments en physique et à distance, sur les desiderata et l'ultra-personnalisation des demandes des uns et des autres, est devenue très complexe. Donc, il faut soutenir les managers, leur faire confiance plus que jamais, leur foutre la paix et leur laisser, avec leur bon sens, leur intelligence et surtout le fait qu'ils aiment les gens, qu'ils aiment les autres. Sinon, il ne faut pas qu'ils soient managers. Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille fortement. Eh bien, les laisser œuvrer, manœuvrer avec le plus d'autonomie possible. Le mot de la fin. Je dirais qu'aujourd'hui, les enjeux des entreprises sont considérables parce que le monde est complexe, il est ultra innovant, ça va très vite, on passe de crise en crise. En fait, on ne se demande plus si on est en état de crise, on se demande dans quelle crise on est, parfois au pluriel. Et donc, je fais partie de ceux qui pensent que les organisations privées, qu'elles soient à but lucratif ou pas, seront un levier majeur de la solution, en plus du politique, pour régler les problèmes de la société et de l'environnement. On va se lever le matin de plus en plus pour régler des problèmes de société et d'environnement, au-delà de générer un résultat net ou un excédent brut d'exploitation, ce qui est un peu court au XXIe siècle. Et dans ce cadre, le conseil que je donnerai aux managers et aux dirigeants qui nous écoutent, c'est que la différence, ils vont la faire s'ils sont capables de permettre aux équipes qui constituent leur entreprise, leur organisation, de mieux fonctionner à court terme et à moyen terme. Et donc, l'enjeu se joue au niveau de chacune des équipes. On ne peut pas considérer une entreprise comme un tout. C'est à la fois, comme dirait la physique quantique, des particules et une onde. C'est ça une entreprise, c'est des individus qui sont dans une équipe et des équipes qui sont dans une organisation. Et tout ça, c'est une onde qui est avec un niveau d'interdépendance dingue et avec des interactions qui vont très au-delà des salariés, puisqu'aujourd'hui, on peut inclure dans le spectre de l'entreprise des freelances, des partenaires, des clients, tout un écosystème. Donc, on parle bien d'écosystème et non plus de concurrence basique. Donc, je dirais le premier et le plus important des conseils que je donnerais à l'issue de ce podcast aux dirigeants, c'est de travailler sur l'efficacité de leurs équipes, commencer par un bon diagnostic avant de foncer tête baissée dans la transformation et d'agir en fonction de ce diagnostic sur ce qui est à résoudre. Et je me tiens à leur disposition s'ils souhaitent avoir des conseils en la matière.
Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des Argonautes, un format proposé par le MEDEF de Lille et la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée.